L'invité de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet invité de la rédaction consacré aujourd'hui au judéo-alsacien, au dialecte judéo-alsacien. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alain Kahn, son savoureux auteur. Bonjour Alain Kahn.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Judaïka. Vous êtes parmi nous pour la sortie de votre livre aux éditions de la Nuée Bleue, 350 expressions judéo-alsaciennes traduites et commentées. Nous en profitons pour saluer bien sûr Mathilde Rémo, l'éditrice, la grande chef des éditions de la Nuée Bleue, à qui vous avez proposé cet ouvrage. Racontez-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça fait des années que vous collectez, que vous écrivez, que vous partagez votre passion, votre histoire du judéo-alsacien. Comment c'est traduit cet ouvrage, et racontez-nous tout, on veut tout savoir.
Oh, on peut remonter à très loin, puisque dès mon enfance à Saverne, avec mes parents, en général, dans les familles juives alsaciennes, on ne parlait pas le judéo-alsacien. Mais mon père et ma mère connaissaient. Ils connaissaient quand même pas mal d'expressions et de mots judéo-alsaciens. Et en certaines occasions, on pouvait en parler avec eux. Mais c'est vrai que dans la vie courante, à l'époque, ça ne se faisait pas. Il fallait parler français.
Il fallait parler français, c'est ça. Ouais. Alors déjà, on ne parlait pas alsacien, on ne parlait pas non plus yiddish. Il fallait vraiment parler français. C'était en fait le langage de la famille.
En fait, c'était le langage, comme on dit, de l'entre-soi.
De l'entre-soi.
Et donc, c'était mélangé avec l'alsacien, évidemment, puisque une ville comme Saverne, on a des contacts avec tous les villages d'alentour, où il y avait aussi des communautés juives, et le judéo-alsacien faisait un peu partie du décor, qu'on le veuille ou non. Et c'est comme ça que, avec mes parents, dans un premier temps, on avait ciblé certaines expressions, certains mots. Ils étaient le plus souvent utilisés au moment des fêtes.
C'était au moment des fêtes. Ouais. Pourquoi spécifiquement au moment des fêtes ?
Parce qu'il y avait des mots qui étaient adaptés à chaque fête. Par exemple, pour
Yom Tov, par exemple.
Pour Yom Tov, oui. Yom Tov en judéo-alsacien, c'est le bonjour. Hein.
C'est le bonjour, c'est ça. Et qui se traduit aujourd'hui comme le jour des fêtes, quoi.
En hébreu, les chagim, hein, c'est ça. Et donc, pratiquement pour chaque fête, il y avait des mots qui ressortaient du judéo-alsacien, comme pour Rosh Hashanah, on disait Baokut.
Baokut,
ça c'est vraiment, c'est même pas du, il y a même pas d'hébreu là-dedans, c'est de l'alsacien pour dire construisez bien, en lien avec
la nouvelle année,
avec la nouvelle année, pour que l'année soit bien construite.
Alors c'est vrai que vous précisez les expressions en judéo-alsacien, et dans le livre, et c'est extrêmement bien fait, il y a les racines, un peu d'étymologie, de l'hébreu, parfois du yiddish, de l'allemand, de l'alsacien, et le tout est parfaitement argumenté, expliqué pour que le lecteur puisse se référer bien sûr aux notes, mais aussi à l'utilisation dans le contexte. Et ça, c'est important, le contexte.
Voilà. C'était vraiment le but de l'ouvrage. Il fallait décortiquer, si vous voulez, toutes ces expressions en retrouvant l'étymologie des mots. J'ai parlé de Rosh Hashanah, par exemple. En Alsace, on avait aussi l'habitude de dire on va gasser.
Gasser,
c'est souhaiter une bonne fête aussi à Rosh Hashanah, et Gasser, ça vient de l'hébreu Gezera, la sentence. Donc on souhaitait une bonne sentence à Rosh Hashanah.
On sent dans ces expressions toute la piété qu'avaient ces juifs de l'époque, ces juifs de campagne, ces juifs tellement caractéristique de notre Alsace, où justement la sentence, comme vous le dites, est véritablement en lien avec le moment redouté, ces jours redoutables.
Ouais, c'était vraiment une foi au quotidien, une foi qui était
une foi profonde,
une foi profonde, qui était naturelle. Il y avait pas de problème. C'était une foi qui s'exprimait comme ça, d'ailleurs.
Une foi de bon sens.
Oui, comme je dis, on reprend un peu ce slogan publicitaire, le bon sens près de chez nous.
Le bon sens près de chez nous, ça, voilà. C'est joli. Ça. Moi, je connaissais le BSP, le bon sens paysan. Là, c'est le BSPC, le bon sens près de chez nous.
Mais en même temps, ça montrait aussi, et c'est ce qu'on oublie souvent, ça montrait aussi une certaine connaissance beaucoup, de bien des aspects du judaïsme.
Une sorte d'érudition de la campagne. Alors, vous parliez, vous évoquez les fêtes, mais il y a également les expressions, on peut les dire même truculentes, avec énormément d'humour. Alors, je vais vous en lire une. Vous m'excuserez, chers auditeurs, et vous m'excuserez, cher Alain, et tous nos anciens de mon horrible malédiction, pour ne pas dire malédiction, mais j'adore cette phrase, et je voudrais qu'on en parle. « Rêve der ever alles rede, over net ever 10 minuten ».
Oui,
traduction. Alors, j'aurais dû le dire en français, vous allez le redire en alsacien. Un rabbin a le droit de parler de tout, mais pas plus de 10 minutes. C'est ce qui nous conscrit aujourd'hui. Pouvez-vous nous le redire en alsacien ?
Rêve der ever alles rede, over net ever 10 minutes.
C'est tellement coulant.
Et en plus, c'est une expression où il n'y a pas de mot hébraïque. Hein.
C'est ça qui est génial.
Ça montre un peu aussi un certain état d'esprit dans les villages. Vous savez, les juifs alsaciens dans la campagne alsacienne, ils étaient plus souvent des Paymesendler,
des marchands de bestiaux.
Ils étaient aussi des colporteurs, qu'on appelle aussi les Bentelmann, qui avaient leurs affaires en bandoulière.
Mais ce n'étaient pas tous des Schlemihl. Hein.
Ce n'étaient pas tous des Schlemihl, non, loin de là. Il y avait Moïse Lotzelwiller, ça c'est encore un autre cas.
c'est à part.
Ça c'est à part. Mais disons, c'est des gens qui travaillaient toute la semaine, qui étaient sur les routes toute la semaine. Et donc,
des juifs errants.
Oui, c'est des juifs qui travaillaient toute la semaine, qui allaient de village en village, et qui soit colportaient des objets, soit s'occupaient des Peheimes, des animaux pour les Peheimesendler. Moi, j'ai encore connu à Saverne, il y avait encore des Peheimesendler et des colporteurs. Et toute la semaine était dirigée pour trouver un havre de paix, le Shabbos. Tout était organisé pour que, enfin, le jour de Shabbat,
on
puisse se reposer, on puisse un peu prendre du recul. Et c'est peut-être aussi de là que vient cette expression, en disant ils espèrent que le rabbin va pas parler trop longtemps.
Alors vous dites aussi dans les explications, et j'adore, que finalement les fidèles s'impatientaient souvent car le rabbin se laissait facilement entraîner dans des commentaires ou dans ses expressions, et que finalement ils n'étaient pas non plus toujours d'accord avec lui, qu'il y a cette espèce de contestation, ce pile-poule presque entre eux.
C'était plus fréquent qu'on croit.
C'est ça, plus fréquent qu'on croit. C'est presque même dans les traditions. Alors, il y en a une autre. Si on reste dans l'histoire des rabbins, je vous la laisserai la traduire dans l'autre sens, je vais la dire en français. Être rabbin n'est pas une affaire pour un juif.
Rêve, je crée mon ce matin feriez.
Je trouve que c'est tellement... C'est sonore.
C'est sonore, et en plus, ça correspond à une certaine appréciation du métier de rabbin.
C'est ça.
Parce que c'était peut-être quelquefois un métier qui était considéré comme un métier plus facile que ce que ces pauvres juifs alsaciens devaient endurer pendant toute la semaine.
C'est ça. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré aussi, oui. Il y a beaucoup d'images et de métaphores. Malheureusement, Alain Kahn, le temps nous file terriblement vite. Un petit mot encore sur le temps que vous avez consacré pour cet ouvrage, parce que c'est titanesque ce que vous avez fait.
Écoutez, j'ai commencé à travailler vraiment en collectant. C'était d'ailleurs, dans un premier temps, c'était pour la rubrique sur le judéo alsacien dans
l'Écho-Unir, que nos auditeurs connaissent, bien sûr.
Et petit à petit, je me suis dit, et puis l'éditeur, La Nuit est bleue, a vraiment cherché à ce qu'on puisse aboutir à ce travail. Et disons, ça a bien mis 2 ans.
Ça a mis deux années. Mais avec tout le travail que vous avez fait également amont, qui est un travail de collecte extrêmement important.
J'avais toujours collecté toutes ces expressions. Et donc, ça rend bien, je dis, cet état d'esprit qui existait dans la campagne alsacienne et qui s'est transmis, qu'on le veuille ou non, de génération en génération.
Et vous continuez à perpétuer cette transmission de génération en génération et pour le futur. Et soyez-en remerciés, cher Alain Kahn. Je rappelle que vous venez d'éditer aux éditions de la Nuée Bleue, 350 expressions judéo-alsaciennes traduites et commentées. Achetez-le, offrez-le, partagez-le, c'est une véritable Bible. D'ailleurs, ça pourrait peut-être s'appeler aussi Bible du judéo-alsacien. On attend la suite et les autres que je suis sûr vous avez dans les tuyaux, parce qu'on vous connaît, Alain.
J'espère, il y a quelques projets.
Il y a quelques projets encore. Un grand merci d'être venu sur Radio Judaïca. 350 expressions judéo-alsaciennes aux éditions de la Nuée Bleue. C'est à se procurer de toute urgence. Excellent.
Merci à vous.
Tous.
L'invité de la rédaction.